Chapitre 8. Escrime et diplomatie. Le lendemain, entrait à Versailles, vers 10 heures, une voiture aux armes de M. de Breteuil. Ceux des lecteurs de ce livre qui se rappellent l'histoire de Balsamo et de Gilbert n'auront pas oublié que M. de Breteuil, rival et ennemi personnel de M. de Rohan, guettait depuis longtemps toutes les occasions de porter un coup mortel à son ennemi. La diplomatie est en ceci d'autant supérieure à l'escrime que, dans cette dernière science, une riposte bonne ou mauvaise doit être fournie en une seconde, tandis que les diplomates ont 15 ans en plus, s'il le faut, pour combiner le coup qu'ils rendent et le faire le plus mortel possible. Monsieur de Breteuil avait fait demander 1 heure avant audience au roi, et il trouva sa majesté, qui s'habillait, pour aller à la messe. « Un temps superbe !» dit Louis XVI, tout joyeux, dès que le diplomate entra dans son cabinet. « Un vrai temps d'Assomption ! Voyez donc, il n'y a pas un nuage dans le ciel !»« Je suis bien désolé, sire, d'apporter un nuage à votre tranquillité, » répondit le ministre. « Allons !» s'écria le roi en renfrognant sa bonne mine. « Voilà que la journée commence mal. Qu'y a-t-il ? « Je suis bien embarrassé, sire, pour vous conter cela, d'autant que ce n'est pas, au premier abord, une affaire du ressort de mon ministère. C'est une sorte de vol, et cela regarderait le lieutenant de police. »« Un vol ? Fit le roi, vous êtes garde des Sceaux, et les voleurs finissent toujours par rencontrer la justice. Cela regarde, monsieur le garde des Sceaux, vous l'êtes, parlez. » « Eh bien, sire, voici ce dont il s'agit. Votre Majesté a entendu parler d'un collier de diamants, celui de M. Boehmer. »« Oui, sire, celui que la reine a refusé. »« Précisément, refus qui m'a valu un beau vaisseau, le Suffrène, » dit le roi en se frottant les mains. « Eh bien, sire, » dit le baron de Breteuil, insensible à tout le mal qu'il allait faire, « ce collier a été volé. » « Ah, tant pis, du roi, c'est cher, mais les diamants sont reconnaissables, les couper serait perdre le fruit du vol, on les laissera entiers, et la police les retrouvera. » « Sire, interrompit le baron de Breteuil, ce n'est pas un vol ordinaire, il s'y mêle des bruits. »« Des bruits, voulez-vous dire ? Sire, on prétend que la reine a gardé le collier. » « Comment garder ? C'est en ma présence qu'elle l'a refusé, sans même le vouloir regarder. Fli, absurdité, baron, la reine n'a pas gardé le collier. Sire, je ne me suis pas servi du mot propre. Les calomnies sont toujours si aveugles à l'égard des souverains que l'expression est trop blessante pour les oreilles royales. Le mot « garder » « Ah ça, monsieur de Breteuil, » dit le roi avec un sourire, « on ne t'a, je suppose, que la reine ait volé le collier de diamants. »« Sire, » dit vivement monsieur de Breteuil, « on dit que la reine a repris en dessous le marché rompu devant vous par elle. » On dit, et ceci je n'ai pas besoin de répéter à votre majesté combien mon respect et mon dévouement méprisent ces infâmes suppositions, on dit donc que les joailliers ont, de sa majesté la reine, un reçu attestant qu'elle garde le collier. Le roi pâlit. « On dit cela ? » répéta-t-il. « Que ne dit-on pas ? Mais cela m'étonne après tout, » s'écria-t-il. « La reine aurait acheté en dessous main le collier, que je ne la blâmerai pas. La reine est une femme, le collier est une pièce rare et merveilleuse. Dieu merci, la reine peut dépenser 1,5 million à sa toilette si elle l'a voulu. Je l'approuverai. Elle n'aura eu qu'un tort, celui de me taire son désir. » Mais ce n'est pas au roi de se mêler de cette affaire, cela regarde le mari. Le mari grondera sa femme s'il veut ou s'il peut. Je ne reconnais à personne le droit d'intervenir, même avec une médisance. » Le baron s'inclina devant ces paroles si nobles et si vigoureuses du roi. Mais Louis XVI n'avait que l'apparence de la fermeté. Un moment après l'avoir manifesté, il redevenait flottant, inquiet. « Et puis, dit-il, vous parlez de vol, vous avez dit vol, ce me semble, s'il y avait vol, ce collier ne serait point dans les mains de la reine, soyons logiques. »« Votre Majesté m'a glacé avec sa colère, dit le baron, et je n'ai pu achever. Oh, ma colère, moi, en colère, pour cela, baron, baron !» Et le bon roi se mit à rire bruyamment. Tenez, continuez et dites-moi tout. Dites-moi même que la reine a vendu le collier à des juifs. Pauvre femme, si elle a besoin d'argent, je ne lui en donne pas toujours. Voilà précisément ce que j'allais avoir l'honneur de dire à votre majesté. La reine avait fait demander, il y a 2 mois, 500 000 livres par monsieur de Calonne, et votre majesté a refusé de signer. C'est vrai. Eh bien, sire, cet argent, dit-on, devait servir à payer le premier quartier des échéances souscrites pour l'achat du collier. La reine, n'ayant pas eu d'argent, a refusé de payer. Eh bien, dit le roi, intéressé peu à peu, comme il arrive quand au doute succède un commencement de vraisemblance. Eh bien, sire, c'est ici que commençait l'histoire que mon zèle m'ordonne de conter à votre majesté. Quoi, vous dites que l'histoire commence ici, qu'il y a donc, mon Dieu, s'écria le roi, trahissant ainsi sa perplexité aux yeux du baron, qui, dès ce moment, garda l'avantage. Sire, on dit que la reine s'est adressée à quelqu'un pour avoir de l'argent. À qui? À un juif, n'est-ce pas? Non, sire, pas à un juif. Mon Dieu, vous dites cela d'un air étrange, Breteuil. Allons, bien, je devine une intrigue étrangère. La reine a demandé de l'argent à son frère, à sa famille. Il y a de l'Autriche là-dedans. On sait combien le roi était susceptible à l'égard de la cour de Vienne. Mieux vaudrait, répliqua monsieur de Breteuil. Comment mieux vaudrait? À qui donc la reine a-t-elle pu demander de l'argent? Si, je n'ose. Vous me surprenez, monsieur, dit le roi, en relevant la tête et en reprenant le ton royal. Parlez sur le champ, s'il vous plaît, et nommez-moi ce prêteur d'argent. Monsieur de Rohan, sire. Eh bien, vous ne rougissez pas de me citer monsieur de Rohan, l'homme le plus ruiné de ce royaume. Sire, dit monsieur de Breteuil en baissant les yeux. Voilà un air qui me déplaît, ajouta le roi, et vous vous expliquerez tout à l'heure, monsieur le garde des sceaux. Non, sire, pour rien au monde, attendu que rien au monde ne me forcerait à laisser tomber de mes lèvres un mot compromettant pour l'honneur de mon roi et celui de ma souveraine. Le roi fronça le sourcil. Nous descendons bien bas, monsieur de Breteuil, dit-il. Ce rapport de police est tout imprégné des vapeurs de la sentine d'où il sort. Toute calomnie exhale des miasmes mortels, sire, et voilà pourquoi il faut que les rois purifient et par de grands moyens s'ils ne veulent pas que leur honneur soit tué par ces poisons, même sur le trône. « Monsieur de Rohan, murmura le roi, mais quelle vraisemblance, le cardinal laisse donc dire. Votre majesté se convaincra, sire, que monsieur de Rohan a été en pourparlers avec les joailliers Beumeur et Bossange, que l'affaire de la vente a été réglée par lui, qu'il a stipulé et pris des conditions de paiement. « En vérité, s'écria le roi, tout troublé par la jalousie et la colère. C'est un fait que le plus simple interrogatoire prouvera, je m'y engage envers votre majesté. Vous dites que vous vous y engagez, sans réserve, sous ma responsabilité, sire. Le roi se mit à marcher vivement dans son cabinet. Voilà de terribles choses, répétait-il. Eh oui, mais dans tout cela, je ne vois pas encore le vol. Sire, les joailliers ont reçu signé, disent-ils, et de la reine, et la reine doit avoir le collier. Ah! S'écria le roi avec une explosion d'espoir. Elle nie, vous voyez bien qu'elle nie, Breteuil. Et sire, ai-je jamais laissé croire à votre majesté que je ne savais pas l'innocence de la reine? Serais-je assez à plaindre pour que votre majesté ne vît pas tout le respect, tout l'amour qui sont dans mon cœur pour la plus pure des femmes? Vous n'accusez que monsieur de Rohan, alors. Mais, sire, l'apparence conseille, grave accusation, baron, qui tombera peut-être devant une enquête, mais l'enquête est indispensable. Songez donc, sire, que la reine prétend n'avoir pas le collier, que les joailliers prétendent l'avoir vendu à la reine, que le collier ne se retrouve pas, et que le mot « vol » a été prononcé dans le peuple entre le nom de monsieur de Rohan et le nom sacré de la reine. « il est vrai, le roi tout bouleversé. Vous avez raison, Breteuil, il faut que toute cette affaire soit éclaircie. »« Absolument, sire. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-bas dans la galerie? Est-ce que ce n'est pas Monsieur de Rohan, qui se rend à la chapelle? Pas encore, si un Monsieur de Rohan ne peut se rendre à la chapelle, il n'est pas 11 heures, et puis Monsieur de Rohan, qui officie aujourd'hui, serait revêtu de ses habits sacerdotaux. Ce n'est pas lui qui passe, Votre Majesté dispose encore d'une demi-heure. Quoi faire alors? Lui parler? Le faire venir? Non, sire. Permettez-moi de donner un conseil à Votre Majesté. N'ébruitez pas l'affaire avant d'avoir causé avec Sa Majesté la Reine. Oui, dit le roi, elle me dira la vérité. Nous n'en doutons pas un instant, sire. Voyons, baron, mettez-vous là, et sans réserve, sans atténuation, dites-moi chaque fait, chaque commentaire. J'ai tout détaillé dans ce portefeuille, avec les preuves à l'appui. À la besogne alors. Attendez que je fasse fermer la porte de mon cabinet. J'avais 2 audiences ce matin, je les remettrai. Le roi donna ses ordres et, se rasseyant, jeta un dernier regard par la fenêtre. Cette fois, dit-il, c'est bien le cardinal, regardez. Breteuil se leva, s'approcha de la fenêtre et, derrière le rideau, aperçut Monsieur de Rohan, qui, en grand habit de cardinal et d'archevêque, se dirigeait vers l'appartement qui lui était désigné chaque fois qu'il venait officier solennellement à Versailles. Le voilà enfin arrivé, s'écria le roi en se levant. Tant mieux, dit Monsieur de Breteuil. L'explication ne souffrira aucun délai. Et il se mit à renseigner le roi avec tout le zèle d'un homme qui veut en perdre un autre. Un art infernal avait réuni dans son portefeuille tout ce qui pouvait accabler le cardinal. Le roi voyait bien s'entasser l'une sur l'autre les preuves de la culpabilité de Monsieur de Rohan, mais il se désespérait de ne pas voir arriver assez vite les preuves de l'innocence de la reine. Il souffrait impatiemment ce supplice depuis un quart d'heure lorsque tout à coup des cris retentirent dans la galerie voisine. Le roi prêta l'oreille, Breteuil interrompit sa lecture, un officier vint gratter à la porte du cabinet. Qu'y a-t-il? Demanda le roi, dont tous les nerfs étaient mis en jeu depuis la révélation de Monsieur de Breteuil. L'officier se présenta. Sire, Sa Majesté la Reine prie Votre Majesté de bien vouloir passer chez elle. Il y a du nouveau, dit le roi en pâlissant. Peut-être, dit Breteuil. Je vais chez la Reine, s'écria le roi. Attendez-nous ici, Monsieur de Breteuil. Bien, nous touchons au dénouement, murmura le garde des sceaux.